Vous écoutez
RMC.
Il est 7h, excellent réveil à tous dans Apolline Matin.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. La boîte de Pandore ouverte pour avant les JO dans les transports, notamment éboueurs, dockers, conducteurs et RATP font pression à leur tour, menace de grève, notamment, vous l'entendrez, comme les contrôleurs aériens et les cheminots récemment. Kenji Girac, il a voulu simuler un suicide. Le procureur de Mont-de-Marsan a donné des précisions sur la blessure par balle du chanteur en début de semaine, vous allez l'entendre, et la production mondiale de vin qui se casse la figure, littéralement plus faible, vendange depuis 60 ans, la faute à la météo.
Et puis face à la recrudescence de vols de muguet, figurez-vous, un fleuriste du Calvados est carrément obligé de dormir dans sa boutique pour protéger son stock. Il témoigne juste après ce journal. Les contrôleurs aériens et les cheminots donnent des idées à d'autres.
Oui, l'approche des Jeux Olympiques tourne au bras de fer dans les transports notamment. Et de nouvelles professions donc se disent à leur tour qu'elles peuvent obtenir des primes ou des avancées, que c'est le moment, comme les cheminots qui ont obtenu cette semaine un accord sur les fins de carrière à la SNCF pour partir un an plus tôt à la retraite. À la RATP, les conducteurs, les contrôleurs veulent la même chose. À Marion Gauthier, vous avez enquêté pour RMC.
Dès l'accord trouvé à la SNCF, les syndicats CGT et Force ouvrière à la RATP ont contacté la direction pour renégocier eux aussi les conditions de départ en retraite. Ce n'est pas un espoir, c'est une exigence, clame FO, son responsable fédéral à la RATP, Jean-Christophe Delprat.
Si la SNCF l'a fait, la RATP pourra le faire. La grève est un moyen de pression important. C'est le bon moment, puisque du coup, les transports vont jouer un rôle crucial avec les Jeux Olympiques.
Un coup de pression et une réponse rapide de la direction de la RATP. Rendez-vous est pris ce lundi.
La SNCF a ouvert une brèche, ça me donne envie de gratter beaucoup.
Autre corporation en réflexion, les éboueurs qui veulent une meilleure reconnaissance de la pénibilité de leur travail. Denis Ferrandino est coordinateur national des activités du déchet CFDT. Il n'exclut pas une grève lors du passage de la flamme olympique à Marseille par exemple.
J'ai du mal à m'imaginer que la France puisse tolérer que les Jeux Olympiques puissent se faire avec les trottoirs remplis de déchets.
Car les dockers pourraient aussi être de la partie si les négociations en cours sur les retraites notamment n'aboutissent pas. JO ou pas, on ne va pas s'empêcher de réclamer notre dû, lance la CGT du secteur.
Alors vous savez qu'on redoute la galère pour les Parisiens pendant les Jeux Olympiques. Eh bien ça se précise, 17 stations de métro et de RER seront fermées une semaine avant la cérémonie d'ouverture, le long de la Seine notamment, et 3 stations seront fermées à partir du 18 juin pendant une durée de 3 mois. C'est aujourd'hui que la flamme olympique va officiellement être transmise à la France après un périple de 11 jours en Grèce. Une cérémonie est prévue aujourd'hui à Athènes avant l'embarquement sur le Belém, le fameux trois-mâts français qui va transporter la flamme jusqu'à Marseille à travers donc la Méditerranée avec à son bord 16 jeunes en réinsertion. Julien Richard à bord pour RMC.
Je vous souhaite la bienvenue à bord.
Face au capitaine du Belém, des larges sourires.
À tous, bienvenue.
Dans leur tenue rouge, Yacine et Wari, 19 et 20 ans, originaires des quartiers nord de Marseille.
C'est un truc de grandiose que j'aurais jamais imaginé dans ma vie.
C'est la plus grosse responsabilité que j'ai eue de toute ma vie parce que je représente les jeunes pour les Jeux Olympiques. C'est énorme, the responsabilité.
On va rentrer dans les bains.
Visite des couchages pour Nathan, c'est spartiate.
Confortable quand même.
Déscolarisé depuis 2 ans, il rêve de faire carrière dans la marine.
Ça donne le goût de l'aventure, c'est exceptionnel. Moi je m'en rends pas bien compte encore. Avec mon frère et mon cousin, on jouait aux Jeux Olympiques quand on était petits. C'est incroyable de faire partie de ça, c'est inespéré.
Alors cette flamme, elle sera ici.
La flamme olympique, elle dormira dans la salle de vie du bateau, dans une lanterne spéciale, le capitaine Aymeric Gibé.
C'est-à-dire que la flamme, elle sera visible de tous en permanence. Donc cette idée de considérer un peu la flamme comme un passager, alors très très VIP. Au début, on va l'accueillir dans le salon, mais elle voyagera aussi, elle déambulera sur le bateau pour sûr.
Le Belém avec ses éclaireurs et sa flamme arriveront le 8 mai à Marseille.
Il est 7h04 sur RMC. Kenji Girac a voulu simuler un suicide pour faire peur à sa femme qui menaçait de le quitter sur fond de consommation d'alcool. Voilà la version de l'affaire évoquée hier par le procureur de la République de Mont-de-Marsan pour expliquer la blessure par balle du chanteur dans la nuit de dimanche à lundi. Mais alors il le dit, on ne saura peut-être jamais s'il s'agit d'une tentative de suicide ou d'un simulacre comme l'affirme le chanteur.
Cette version lui appartient. L'enquête judiciaire n'a pas vocation à aller plus loin sur cette question de la motivation du passage à l'acte, puisque ni un suicide simulé qui tourne mal, ni une véritable tentative de suicide ne correspondent à une infraction pénale.
Jusqu'à 2 ans de prison, c'est la peine requise hier à l'encontre de 12 hommes qui étaient jugés à Valenciennes pour des relations sexuelles parfois tarifées avec une collégienne de 14 ans, rencontrée sur Snapchat ou sur le site internet controversé Coco. Décision mise en délibéré, Marion Dubreuil, vous avez suivi l'audience hier pour RMC.
Ce n'est pas moi qui suis allée la draguer, se défend un prévenu, front dégarni, qui a échangé avec la collégienne sur le site de rencontre Coco. On s'en fiche, lui rétorque la juge. Vous avez 47 ans, elle en a 14. Je ne l'ai su qu'après, assure-t-il. Le tribunal diffuse des photos de l'adolescente, frêle, visage rond. C'était son premier rapport sexuel. Elle a saigné et ça ne vous a pas empêché d'y retourner, le reprend la procureure. Comme d'autres prévenus, il fait valoir sa solitude, son besoin d'être aimé. Il y a aussi cet agriculteur de 55 ans qui a voulu, dit-il, sauver la collégienne sans jamais alerter ses parents, pas même quand elle a fugué chez lui. Absente à l'audience, l'adolescente ne se voit pas encore comme victime. Elle veut montrer qu'elle était maître des choses, par fierté, confie son père à la barre. Vous me demandez ce que j'attends de cette procédure, que ma fille ait une vie heureuse et saine, que les gens deviennent plus humains.
7h05 sur RMC, c'est ce soir que la sentence va tomber. Les agences de notation Moody's et Fitch vont mettre à jour la note qu'elles attribuent à la France.
Oui, c'est l'indicateur pour les marchés financiers, en fonction notamment du déficit. Déficit qui est plus important que prévu, on le sait, Victor Joannin.
L'agence Fitch ne devrait pas dégrader la notation de la France, elle l'a déjà fait l'année dernière, mais le dérapage des finances publiques pourrait être en revanche sanctionné ce soir par Moody's et surtout dans quelques semaines par Standard & Poor's. La note de la France, aujourd'hui AA, deviendrait AA-. En clair, la capacité de l'État à rembourser ses titres de dette passerait de très forte à forte. Pas de quoi donc inquiéter les marchés financiers et les inciter à augmenter leur taux d'intérêt quand ils prêtent de l'argent à la France. L'économiste François Girolf est rassurant.
Les investisseurs qui investissent dans la dette française se sont déjà fait une idée, ont déjà anticipé. Ils ont vu que le déficit public de la France avait effectivement très fortement augmenté. Donc ils ont déjà pris ça en compte dans le prix auquel ils achètent la dette et donc le taux auquel ils prêtent à l'État français.
Finalement, le vrai risque pour le gouvernement est politique, car si les agences de notation le coiffent d'un bonnet d'âne, ce sera du pain béni pour les oppositions, d'autant que la notation de Standard & Poor's, la plus attendue, tombe le 31 mai, 9 jours seulement avant l'élection européenne.
Plusieurs conséquences ce matin du dérèglement climatique. Sachez qu'il n'y aura plus d'huîtres de Marraine Oléron à la vente l'été. Les fines de Claire précisément, la faute à l'eau qui est trop chaude dans les marais et qui dénature le goût des huîtres. Et la production mondiale de vin qui est en chute libre. On a connu l'année dernière les plus faibles vendanges des 60 dernières années, moins 10% partout dans le monde, nous dit l'Organisation internationale du vin. Alors là encore, Johanna Chabas, c'est la faute à la météo.
Oui, les catastrophes climatiques se sont enchaînées l'année dernière. Sécheresse, vagues de chaleur, incendies, gel, inondations, que des phénomènes qui détruisent les récoltes ou favorisent les maladies dans les vignes. Conséquence immédiate, la production de vin a dégringolé. 237 millions d'hectolitres produits par les vignerons l'an dernier. C'est leur plus faible vendange depuis 1961. En Espagne, la récolte chute de 21%. En Italie, de 23%. Selon l'Organisation internationale du vin, ces conditions environnementales extrêmes peuvent être dues au dérèglement climatique, mais aussi à l'artificialisation des sols. Le seul pays à tirer son épingle du jeu, c'est la France. Non seulement la production progresse de 4%, mais en plus, les mauvais résultats des autres concurrents permettent à la France de devenir, et de loin, le premier producteur de vin au monde.
On reparle d'Aya Nakamura ce matin, qui était la star véritablement de la deuxième édition de la cérémonie des flammes, les victoires de la musique en quelque sorte du rap. C'était hier soir. Aya Nakamura sacrée artiste féminine de l'année, Gazo artiste masculin. Aya Nakamura qui n'a pas voulu parler des Jeux Olympiques. Vous savez qu'elle est pressentie pour chanter Edith Piaf. Elle n'a pas voulu s'exprimer sur le sujet.
Voilà, peut-être pas besoin d'en dire plus, on l'a bien compris. Vous vous souvenez que, en tout cas, Emmanuel Macron a répondu la semaine dernière en disant qu'en effet, il y était plutôt favorable, même si ce...
Il y a Nicoletta qui a changé d'avis cette semaine.
Ah bon? Alors qu'est-ce qu'elle a dit?
Elle avait critiqué un peu Aya Nakamura, elle a dit bah, j'ai changé d'avis, c'est peut-être pas plus mal. Je comprends pas ce qu'elle dit, mais ça me fait rigoler. Voilà, en gros, ce qu'a dit Nicoletta.
Bon, donc elle a évolué quand même.
Il y en a qui ont évolué,
vous n'hésitez pas. Il est 7h09, c'était le journal de Quentin Vinet. Je voudrais vous signaler que vous êtes extrêmement nombreux à nous appeler au 32-16. Vous êtes très émus par le témoignage, émus et frappés par le témoignage, comme nous tous. Hein, on était vraiment très émus en plateau. On l'a dit d'ailleurs, hein, Nicolas Poincaré et moi-même, notre fierté de travailler dans une radio RMC qui donne la parole à tout le monde et sur laquelle on entend des témoignages aussi puissants que celui de Grégoire. Grégoire, si vous ne l'avez pas entendu, je vous recommande de l'écouter. On a découpé en longueur son témoignage, on l'a mis sur les réseaux sociaux, vous pouvez le retrouver. Prenez le temps de l'écouter, ça vaut la peine. Grégoire, je le rappelle, pour ceux qui ne l'auraient pas entendu et qui nous auraient rejoint à 7h, il nous a appelé à 6h40 pour nous dire qu'il avait changé de prénom parce qu'il a été discriminé souvent, ayant un prénom, comme il dit, à consonance arabique. Et il a dit d'une manière à la fois énergique et bouleversante combien il avait été pris par cette injustice, et il nous a raconté surtout le témoignage aussi de son père, la manière dont son père aimait la France et ce qu'il avait trouvé d'autant plus injuste dans ce qu'il a trouvé de ses employeurs. Vous êtes nombreux à réagir, on va vous donner la parole ce matin, on va ouvrir le standard davantage. Nicolas est au standard au 32-16 pour vous permettre de réagir, de donner aussi vos témoignages. Vous n'hésitez pas, c'est ça RMC.
À suivre dans Apolline Matin sur RMC.
Touche pas à mon muguet. Des producteurs dorment carrément à côté des fleurs pour éviter les vols qui se multiplient à l'approche du 1er mai. C'est le cas du témoin du jour. Vous l'entendrez, il est fleuriste à Lisieux. Il dort dans sa boutique et il est avec nous dans un instant.
RMC, 6h39.
Apolline Matin. RMC, Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h12 sur RMC.
Le témoin RMC.
Et c'est bientôt le 1er mai, mercredi prochain, grosse journée de vente de muguet. On est avec Frédéric Gosset, bonjour. Vous êtes fleuriste, bonjour. Fleuriste à Lisieux, dans le Calvados. Et si je comprends bien, vous avez carrément décidé de dormir dans votre magasin pour garder le muguet.
Oui, parce que cette année, on s'aperçoit qu'il y a déjà des vols anticipés, des gens qui pensent que le muguet arrive beaucoup plus tôt, et il s'avère qu'il y a déjà eu des vols, et en plus, maintenant, le muguet devient un produit plus rare en production, du coût énergétique, quoi. Donc on est très vigilant à ça, et la rareté du produit fait qu'on doit être très vigilant.
Et quand vous dites « on », c'est parce que vous en avez parlé aussi avec vos confrères, vos collègues, à la fois fleuristes, mais aussi producteurs, hein, qui carrément dorment dans les champs.
Oui, oui. Et en fait, je suis revendeur. Je suis artisan fleuriste, mais nos producteurs sont de plus en plus dans la crainte, et ils doivent rester aussi sur les lieux pour certains. Et maintenant, chacun est équipé d'alarmes de plus en plus. Enfin, c'est mon cas. Les producteurs sont vigilants, et ce que je veux dire, c'est que on est vraiment contraint à prendre des précautions, puisque les gens vont voler, les malveillants vont voler du muguet comme ils iraient voler des bijoux dans une bijouterie pour le revendre à la sauvette, puisque le muguet, on peut le vendre à la sauvette.
Oui, parce qu'évidemment, c'est la spécificité. Et c'est important de le dire, c'est que au fond, le muguet, c'est une des rares choses qu'on peut vendre de toute façon, de manière tout à fait autorisée. Hein. C'est l'autorisation le jour du 1er mai. Vous pouvez vous mettre
coin
de rue.
Autorisé, mais quand même, faut.
Alors justement, redonnez-nous les règles
qui ne sont plus appliquées.
Redonnez-nous les règles.
Aujourd'hui, il faut savoir que le muguet, c'est le Parti socialiste qui a créé la fête du travail, et de là le Parti communiste s'est servi de cette fête, ils n'ont pas eu tort, pour remplir leurs poches, pour faire une cagnotte. Mais après ce muguet, c'était du muguet sauvage que l'on trouvait dans les bois. Aujourd'hui, on n'en trouve plus. Donc le problème aujourd'hui, c'est que ce muguet à la sauvette, normalement, il est vendu sans emballage sur les places publiques. Et aujourd'hui, on voit que finalement, il y a beaucoup de revendeurs qui arrivent à avoir du muguet emballé, qui sont pas. Donc on peut se demander d'où ça vient.
Donc voilà. Normalement, c'est la différence, c'est entre le muguet que des gens comme vous, c'est-à-dire qui avaient pignon sur rue et qui êtes revendeur agréé en quelque sorte, vous pouvez revendre, voilà. et celui que normalement, effectivement, vous auriez trouvé dans les champs et que vous avez le droit, exceptionnellement, en cette seule journée du 1er mai, de vendre. Frédéric Gosset, quand vous dites, il nous le pique comme on nous le pique comme des bijoux, c'est-à-dire que en fait les voleurs se sont organisés. Vous vous êtes retrouvé vraiment dans des situations compliquées, vous ou certains de vos collègues?
J'ai eu des collègues qui se sont retrouvés cambriolés. Ce sont des bandes organisées, puisque j'ai vu il y a deux jours dans l'Oise, il y a eu un vol chez un fleuriste où les malveillants sont restés quand même 20 minutes dans la boutique cagoulés. Donc avec des gants et tout, donc pour les enquêteurs, c'est difficile de remonter la filière. Quoi.
Donc, et vous avez donc décidé de vous installer un petit coin dans votre boutique pour carrément dormir sur place.
En fait, Déjà, je suis artisan. Vous doutez bien que les deux nuits, la veille du muguet, je dors pas bien. Donc, je suis obligé de travailler dans ma boutique déjà, comme un pâtissier le ferait. Donc, déjà, je suis dedans. Donc, je vais me reposer entre deux, mais je vais dans la boutique, oui.
Oui, parce qu'effectivement, voilà. C'est une grosse pression. C'est une très grosse journée pour vous, hein.
Bien sûr, c'est très important. Ça représente, je vais pas vous donner de chiffre d'affaires parce que nous, j'ai la chance de travailler correctement, mais nous, ça va représenter 2 semaines de travail, quoi, à peu près en chiffre d'affaires.
L'équivalent de 2 semaines de travail en une journée.
Parce que le coût de production, en une journée et demie, quoi, de vente. Mmh. C'est-à-dire, il faut être prêt. C'est comme un marathon, on doit être prêt et puis être prêt pour le jour J, quoi.
Ouais, voilà. Sauf que vous allez être fatigué si vous dormez dans la boutique, mais on le sent bien, effectivement. Il n'y a pas de secret. Mais Frédéric Gosset, merci en tout cas de votre témoignage. Elle est où la boutique exactement?
C'est moi qui vous remercie.
Elle est où la boutique?
Elle est à Lisieux, au cœur de la Normandie.
Voilà. À Lisieux, mais vous êtes où? Comment s'appelle la boutique? Allez-y, c'est le moment.
Parole de fleurs.
Parole de fleurs. On va venir chez vous, oui. Frédéric Gosset. Et je connais bien Lisieux et le Calvados.
Fleurs, on leur mot à dire.
Magnifique.
Merci beaucoup.
Merci Frédéric Gosset, en tout cas, pour votre témoignage. Il est 7h17 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
La dette de la France sous la menace d'une dégradation, d'une mauvaise note. Le verdict, c'est ce soir. Qu'est-ce que ça changera pour nous au quotidien? Qu'est-ce que ça change d'ailleurs dans la course aux économies du côté du gouvernement? Toutes les explications à 7h40 avec l'économiste Élie Cohen. Avant cela, le 7h20 d'Apolline Matin avec le trio du vendredi. Guillemette Franquet, Manu Le Chypre et Arnaud Demange. Et puis on reviendra bien sûr sur les témoignages de Grégoire qui vous a tous bouleversés. À tout de suite.
Apolline Matin.
Les indiscrets RMC.
Les coulisses de l'actu avec le chef du service politique ce matin. Bonjour Jérémy Trottin.
Bonjour Apolline.
Vous nous dévoilez ce matin que pour les JO, le gouvernement va distribuer des prospectus pour lutter contre la prostitution.
Oui, un kit à destination des touristes qui viendront pendant les Jeux. Il est nécessaire de rappeler la position abolitionniste de la France et notre législation, explique Aurore Berger, ministre déléguée à l'égalité femmes-hommes. Car en France, c'est bien le client qui est passible d'une amende, 1 500 € ou 3 750 € en cas de récidive, contrairement à l'Espagne où la prostitution est légale, ou à l'Allemagne, où elle est régulée. Les JO doivent rester une fête, mais pas à n'importe quel prix, insiste la ministre, qui redoute une hausse de la prostitution au cœur de l'été. Concrètement, le gouvernement et quelques grands groupes travaillent depuis plusieurs semaines. Aéroports de Paris, Air France, SNCF, les hôtels Accor, Airbnb ou encore les panneaux publicitaires JC Deco. Leur sera remis un kit à destination de leurs clients ou de leurs usagers. 2 axes à cette communication gouvernementale. Tout d'abord, rappeler les règles et les peines encourues, mais aussi les explications sur la marche à suivre en cas de constatation de la pratique. Le propriétaire d'un appartement où se déroulerait en sa connaissance des actes de prostitution serait par exemple responsable devant les tribunaux. Le ministère des Sports travaille lui de son côté aux informations à fournir aux délégations étrangères.
RMC, Apolline Matin. RMC, Apolline Matin, le 7h20.
Apolline de Malherbe.
Et c'est l'heure du 7h20 d'Apolline Matin, mais je voudrais tout de suite qu'on accueille d'abord Stéphanie, parce que je vous le disais tout à l'heure, le témoignage de Grégoire. Grégoire qui racontait avoir dû changer son prénom, un prénom au départ à consonance musulmane, et il disait en fait ça m'a bloqué partout alors que les entretiens se passaient bien, et depuis qu'il a changé son nom en Grégoire, les choses se passent mieux, mais il le disait avec une émotion qui nous a tous bouleversés. On était tous extrêmement fiers d'entendre et de donner à entendre ce témoignage. Depuis le standard littéralement explose. Vous êtes très nombreux à vouloir réagir. Je voudrais tout de suite accueillir Stéphanie. Bonjour Stéphanie.
Bonjour Apolline.
Stéphanie, vous êtes responsable juridique à Saint-Germain-en-Laye. Vous vouliez réagir à ce témoignage.
Oui,
de Grégoire.
Parce que ça m'a effectivement beaucoup touchée, parce que ça me rappelle exactement les termes de mon père qui m'avait dit « Moi, j'ai bénéficié de l'ascenseur républicain. J'ai été à l'école publique, et c'était les valeurs d'excellence, c'était les valeurs de travail, les valeurs de mérite, et pas des valeurs de race ou de religion. Enfin, oui, ça m'a touchée. Effectivement, ça m'a beaucoup touchée. Moi, mon père était fils de maraîcher à Nanterre. Il est né après-guerre, en 48.
Ouais.
Et oui, il a travaillé toute sa vie. Et il nous a inculqué ça, les valeurs de travail, de mérite, et pas de religion, et pas de différence. Et c'était la valeur humaine, quoi.
L'égalité. Liberté, égalité, fraternité.
Exactement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la France dans laquelle on vit, je la reconnais pas, quoi.
Les divisions, les haines, les discriminations.
Ouais, ça m'attriste. Vraiment, ça m'attriste. Parce qu'on n'enseigne plus ces valeurs-là à nos enfants. Ils se retrouvent dans rien, en fait.
Et c'est exactement ça, dommage. Et c'est ce que disait, et c'est ce qui était bouleversant. Bah oui. Et je pense que là, avec Grégoire, il y avait quelque chose de l'ordre justement d'une fraternité retrouvée. Oui. Mais le fait qu'il ait dû changer son prénom pour en arriver là, c'était.
Oui, mais c'est dramatique. C'est complètement dramatique. On est dans une France aujourd'hui qui n'a plus de valeur, qui n'a plus de projet, qui ne propose plus rien. Et très honnêtement, quand j'ai entendu le discours de Macron hier, j'étais outrée, quoi. Enfin, l'Europe, c'est bien gentil, l'Europe, mais enfin, il y a la France avant, quoi.
Il faut retrouver cette fraternité qui dépasse effectivement les différences. Merci Stéphanie.
Vous êtes nombreux. Au revoir. Bonne journée.
Merci en tout cas, vous êtes nombreux à réagir et effectivement, n'hésitez pas. On vous ouvre le standard ce matin parce que en quelque sorte, ce témoignage, il nous a tous réveillés aussi. Le 32-16 vous est ouvert. Un mot avec vous, Guillemette Franquet, ce matin pour venir en aide aux habitants de Drancy en Seine-Saint-Denis. Ils sont voisins d'une entreprise de BTP qui a rien à faire.
Oui, exactement. C'est une déchetterie industrielle qui s'est installée sous leur fenêtre depuis 2 ans en toute illégalité. En fait, elle traite des déchets du BTP, notamment des blocs de béton qu'elle réduit en poussière. Dinka habite juste en face.
Le matin à 5h, ces camions, ils les mettent en route. Mais ces camions, ils font tellement de bruit. Je ne peux plus. La poussière, c'est horrible. Ça bouge chez moi, ça vibre. Nos maisons sont fissurées. Je deviens folle.
Voilà, et on n'arrive pas à faire partir cette entreprise qui n'a pas le droit d'être là. Sa présence n'est pas conforme au plan local d'urbanisme qui dit que normalement c'est que des activités artisanales. Et là, ce sont des activités industrielles. On a quand même des bonnes nouvelles ce matin. Des nouveaux tests acoustiques vont être réalisés pour évaluer les nuisances sonores. Nous, on a contacté l'entreprise et normalement, elle devrait partir d'ici fin juillet. Et je vous promets, on va y veiller.
Merci Guy. Mettre l'actu éco ce matin, Manu. Désmicardiser la France. Ça, c'était la promesse de Gabriel Attal et il y a des premières pistes qui commencent à se dessiner.
Oui, parce qu'avant Gabriel Attal, Elisabeth Borne avait demandé à 2 économistes réputés, Antoine Bozziaud et Antoine Vasmer, de trouver les moyens de débloquer l'ascenseur social pour les millions de Français qui sont coincés autour du SMIC. Alors leur rapport n'est attendu que fin juin, mais on a déjà des pistes.
Des pistes comme quel genre de solution ?
Eh ben, par exemple, cibler les allègements de charges non pas sur tout les gens qui sont autour du SMIC, comme ça a été fait, parce que ça a marché quand il y avait 10% de chômage, mais aujourd'hui ça n'est plus efficace et ça coûte cher. Donc on cible sur quelques poches de chômage résiduelles. Par exemple, la Suède a réduit les cotisations employeurs pour les moins de 25 ans uniquement, et ça a marché. La Finlande a mis en place des exonérations sur des régions où le taux de chômage était plus élevé, et ça a marché. Ce qui est sûr, c'est qu'ils disent qu'il n'y aura pas de mesures choc, mais plutôt tout un tas
sur
de
des
petites
poches
mesures ciblées.
Très ciblées. Arnaud, mon invité ce matin, c'est Raphaël Glucksmann, tête de liste PS et place publique pour les élections européennes.
4 consonnes et 3 voyelles, c'est le prénom de Raphaël.
Je le mélange de Carla Bruni, la Céline Dion française, la Beyoncé de l'Elysée, les plus grandes chantent le nom de la nouvelle star, Raphaël Glucksmann. C'est la Glucksmania en ce moment. C'est la première star socialiste depuis Bernard Cazeneuve. Il marche dans les traces glorieuses de Stéphane Le Foll ou Vincent Payon. Enfin bref, dans les sondages, sa liste se rapproche de celle de la majorité. Et donc c'est un peu la honte pour Macron. Se faire battre par le PS quand tu pensais avoir détruit le PS, ça craint. Le PS, c'est un peu Highlander, quoi. Populaire dans les années 80, un peu ringard, mais il meurt jamais. La France est en train de redécouvrir qu'il existe un espace politique entre Emmanuel Macron, donc qui est quand même à 2 doigts d'envoyer les chômeurs sur le front ukrainien, et Jean-Luc Mélenchon, de l'autre côté, qui a un peu laissé tomber la campagne des européennes pour se reconcentrer sur sa campagne des municipales à Ramallah. Il ne parle que de Palestine, tout le temps, à tout le monde, ses commerçants, son poissonnier. Bonjour Monsieur Mélenchon, aujourd'hui on a reçu un très bon saumon fumé. Fumé, comme la fumée qui s'échappe des ruines des immeubles de Gaza. Oui, non, sinon on a aussi de l'arrêt. Oui, mais l'arrêt qu'il faut, c'est l'arrêt des combats à Gaza. Oui, bon, sinon, la dernière fois, je vous avais promis des petites pommes de terre, des pommes de terre promises, comme la terre promise revendiquée par le pouvoir inique de Netanyahou. Alors, moralement, on en pense ce qu'on veut, mais enfin, ça fait que des électeurs qui attendent qu'on leur parle de leur vie quotidienne se sentent un peu moins représentés. Alors, Raphaël, monte, jusqu'où ? On verra ça avec vous à 8h30.
Rendez-vous à 8h30 tout à l'heure, il est 7h27.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. RMC. Apolline Matin.
Le journal d'Élise Dangean. Bonjour Élise.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Beaucoup d'alcool, un peu de drogue et une dispute conjugale. C'est en simulant son suicide que Kenji Girac s'est donc blessé par balle. Le procureur a donné hier le fin mot de l'histoire. Gérald Darmanin veut que les mineurs restent chez eux le soir. Le ministre de l'Intérieur soutient les maires qui instaurent des couvre-feux. Et puis ça n'a jamais été aussi simple de changer de nom. Près de 150 000 Français l'ont fait depuis l'adoption de la loi.
Kenji Girac s'est donc bien blessé lui-même en simulant le suicide.
Il avait dans un premier temps évoqué une erreur de manipulation d'une arme achetée la veille avant de finalement reconnaître face aux enquêteurs son geste dont le procureur de la République de Mont-de-Marsan a donné les détails hier. Un geste de désespoir en pleine dispute conjugale et dans un état de grande ébriété, Pierre Bourgès.
Le procureur Olivier Janson a d'abord donné des précisions sur les heures qui précèdent l'incident. Une journée très alcoolisée. À 5h du matin, au moment du coup de feu, Kenji Girac avait 2,5 grammes d'alcool par litre de sang.
Il dit « c'était les vacances, j'ai tout lâché, j'aurais pas dû boire autant ».
D'autant que le chanteur admet aussi avoir pris de la cocaïne dans la soirée avant de partir au casino. En rentrant dans la nuit, une dispute éclate avec sa femme qui menace de partir. Kenji Girac prend peur, il sort un pistolet et le braque sur lui.
Il a indiqué que cette impulsion a consisté pour lui à vouloir faire peur à sa femme. En quelque sorte, il a simulé un suicide.
Mais il assure aux enquêteurs ne jamais avoir tenté de se suicider réellement. Il a oublié de vérifier que le chargeur était bien vide avant de tirer, une version que le procureur met en doute.
Cette version lui appartient. L'enquête judiciaire n'a pas vocation à aller plus loin sur cette question de la motivation du passage à l'acte, puisque ni un suicide simulé qui tourne mal, ni une véritable tentative de suicide ne correspondent à une infraction pénale.
D'après la conjointe du chanteur, il avait pourtant déjà eu des pensées suicidaires par le passé.
On vous parlait de ce procès hier sur RMC, celui de 12 hommes jugés pour avoir eu des relations sexuelles parfois tarifées avec une collégienne de 14 ans rencontrée notamment sur le site coco.gg. Le parquet a requis jusqu'à 2 ans de prison, décision attendue vendredi prochain. La multiplication des couvre-feux pour les mineurs en France à Béziers, à Nice, mercredi, mais aussi à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe. Celui-ci n'a pas été décrété par le maire, mais par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui s'est prononcé en faveur de la mesure hier sur France 3 Occitanie.
Je voudrais dire qu'il n'est pas normal que des enfants, des adolescents, des mineurs soient dans la rue à minuit, 1h, 2h du matin. Ils doivent être chez eux. On ne doit pas accepter que cette violence qui touche les plus jeunes doit être encouragée par l'irresponsabilité de certains parents et l'irresponsabilité des pouvoirs publics. Les maires qui ont la compétence pour prendre des arrêtés, en effet comme l'État, pour empêcher ces mineurs d'être dehors, notamment les moins de 13 ans, je les soutiens. Je les soutiens et les préfets de la République les soutiendront, même si évidemment ce n'est pas à l'État de se substituer à tous les territoires et à toutes les communes.
Et puis on en sait plus ce matin sur le mineur qui projetait une tuerie de masse dans son lycée à Antibes. L'adolescent de 16 ans a été mis en examen et placé en détention provisoire et c'est son psychiatre qui l'a signalé aux forces de l'ordre. Sa petite amie qui souffre aussi de troubles psychiatriques a, elle, été placée en garde à vue. Il est 7h34, c'est demain que la flamme olympique quittera la Grèce, direction Marseille, à bord du 3-mâles Belém, cérémonie cet après-midi. À Athènes, on sera en direct dans le journal de 8h. En France, l'initiative a déjà fait couler beaucoup d'encre. Le livret des Jeux Olympiques à destination des élèves du CP au CM2 et sa pièce de 2 euros fabriquée pour l'occasion par la Monnaie de Paris, coût total de l'opération 16 millions d'euros. Et la polémique se poursuit puisque plusieurs dizaines d'écoles viennent de renvoyer l'argent, Solène Gardré.
Oui, c'est le cas en Lozère. Des enseignants d'une quinzaine d'écoles ont rendu mercredi le livret, raconte la secrétaire départementale Force Ouvrière, Béatrice Lafont.
Nous sommes rentrer dans les locaux de l'inspection d'académie. Le secrétaire général est venu réceptionner les colis. Des mesures comme celle-là nous font dire que les moyens ne sont pas mis là où il faut cette année. Nous avons 3 fermetures de classes dans un département rural qui compte 81 écoles.
Même action de la part d'une quarantaine d'écoles du Tarn pour qui les 2 euros n'ont pas leur place à l'école primaire, explique Bastien Alberti de la FSUS NUPP.
Le livret pédagogique qui accompagne les pièces, pourquoi pas, mais de l'argent, c'est idiot. On ne comprend pas bien ce qui leur est passé par la tête. La circulation d'argent dans les écoles, c'est interdit. C'est dans la plupart des règlements intérieurs des écoles.
Et puis, il y a des inquiétudes sur ces pièces, stockées parfois pendant plusieurs semaines dans les écoles, constate Nadia Alram, référente nationale école à l'UNSA.
Il y a beaucoup d'écoles dans lesquelles il n'y a pas d'espace sécurisé pour stocker de l'argent. Ça représente toujours un risque, risque de convoitise, risque qu'il y ait des vols.
Dans le Tarn, l'Académie de Toulouse a assuré que les livrets seraient bien rendus aux élèves qui n'en ont pas eu.
3 fois plus de changements de nom de famille entre août 2022 et décembre dernier. Voilà ce qu'a permis la loi Vignan, promulguée il y a maintenant 2 ans. Procédure simplifiée et gratuite. Il suffit de se rendre en mairie. Un jeu d'enfant, Cassandre Brault.
C'est à la suite de la séparation de ses deux parents que Paul a voulu changer de nom.
Ça me paraissait logique, pour ressembler à mes deux parents, avoir cette double identité, quoi.
Une fierté pour lui.
Signer avec mon nom complet, pour moi, c'est essentiel. Et d'ailleurs, j'aime pas qu'on me réduise à simplement mon premier nom de famille. Pour moi, c'est l'association des deux qui me ressemble.
Vincent aussi a changé de nom pour reprendre celui de son père.
Je m'appelle Vincent Prunière maintenant, et avant je m'appelais Vincent Moutel.
Avec l'entrée en vigueur de la loi Vignal au 1er juillet 2022, il a pu bénéficier d'une procédure simplifiée.
La nouvelle méthode, c'est aller à l'état civil, demander son changement de nom de famille, et on crée ton dossier et tu as un mois pour valider.
De plus en plus de personnes sautent le pas, et ça n'étonne pas Marine Gatineau-Dupré, présidente de Porte Mon Nom à l'initiative de la loi.
Quand on porte un nom difficile à porter, le poids au quotidien est extrêmement lourd. Et cette liberté individuelle était essentielle. C'était même des appels au secours. De nombreuses personnes demandaient à vouloir se reconstruire.
Et ce sont les femmes qui se lancent davantage que les hommes dans cette démarche.
Il y a du football ce soir, 31e journée de Ligue 1, Montpellier-Nantes en ouverture à 21h avant le très attendu PSG-Le Havre demain et l'éventuel sacre de Paris.
C'était le quintet aussi.
Ouais, bah il y a le quintet.
Ouais, c'est à quelle heure le quintet aujourd'hui?
C'est 20h15 et c'est sur l'hippodrome de Vincennes. Voici le pronostic de la Dream Team des courses RMC. Aujourd'hui, leur favori, c'est le numéro 5, Être d'Ourville. Et l'outsider, c'est le numéro 16, Forever JL. La course du quintet à suivre en direct sur RMC Découverte.
C'était le journal d'Élise Dangean et le quintet, c'est donc à 20h15 sur l'hippodrome de Vincennes. Il est 7h37. Vous êtes bien sur RMC. Vous êtes nombreux aussi à vouloir revenir sur le témoignage tout à l'heure de Grégoire. On vous le fera réécouter dans un instant.
RMC, 6h39.
Apolline Matin.
Et c'est l'heure du bulletin de vote pour la France, mais surtout pour la dette de la France. Deux agences qui ont beaucoup d'influence remettent leur note ce soir. Et si elle est mauvaise, ce sera mauvais pour notre pouvoir d'achat également. Explication dans un instant avec l'économiste Eli Cohen. Il est l'invité du jour sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Et Apolline, vous le disiez, vous êtes extrêmement nombreux ce matin à réagir aux propos de Grégoire qui nous a appelé tout à l'heure au 32-16. Grégoire qui a dû changer de prénom pour effacer la consonance arabique, comme il dit, de son état civil, éviter de subir des discriminations. Thierry résume un peu ce que tout le monde pense sur Direct Studio. Merci Grégoire, écrit-il. Je suis resté scotché à ma chaise, saisi par l'émotion, les yeux pleins de larmes. Laurent également explique que le message de Grégoire l'a fait pleurer tellement son témoignage est criant de vérité. Respectons-nous malgré nos différences. Voilà la demande de Laurent sur Direct Studio. On a également Maz qui nous explique être marié avec une Marocaine. Il a 2 enfants. Il leur a donné des prénoms français à ses enfants. Et quand il entend le témoignage de Grégoire, eh bien, il dit, je pense que j'ai eu raison de leur donner ces prénoms-là. Vous continuez également, vous aussi, de réagir à ces changements d'identité. Avez-vous déjà essayé de changer de nom de famille, notamment pour éviter les discriminations? Venez nous le dire ce matin au 32-16 et sur l'appli RMC rubrique Direct Studio.
RMC au 32-16,
45 centimes la minute.
Ou par SMS au 732-16, 75 centimes par envoi, plus prix du SMS.
RMC, Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h40 et on va parler économie.
L'invité du jour.
Économie de la France, mais économie aussi dans notre portefeuille, dans nos poches à chacun, parce que ce qu'il se passe ce soir aura des conséquences sur notre pouvoir d'achat. Bonjour Eli Cohen.
Bonjour.
Merci d'être dans ce studio ce matin. Vous êtes économiste, un des plus grands économistes en France aujourd'hui. La dette de la France est régulièrement notée et c'est ce soir que le dernier bulletin de notes sera rendu. L'économie française tourne au ralenti. On doit faire 20 milliards d'économies cette année. Voilà ce qu'a dit le ministre de l'économie. Et il y a donc 2 agences qui vont rendre leur verdict. Fitch et Moody's, ça paraît assez loin ces agences, mais en réalité l'impact sera immédiat sur le coût ou non de la dette et donc sur les impôts et donc sur le pouvoir d'achat.
C'est-à-dire les agences de notation sont les organes qui évaluent le potentiel de l'économie française, qui vérifient si les engagements pris en matière de réduction des déficits et de maîtrise de la dette sont tenus. Et en gros, ils sont le porte-voix pour l'ensemble des marchés. Les différents investisseurs partout dans le monde n'ont pas le temps de faire des enquêtes détaillées sur la situation de la France. Donc les agences de notation délivrent une espèce de note de synthèse qui sert beaucoup aux investisseurs. Les investisseurs, en gros, apprécient le risque qu'ils prennent en achetant de la dette française.
Donc ça veut dire que ces agences de notation, elles font autorité vis-à-vis des investisseurs,
des marchés,
qui se disent, bon, bah, ok, je prête, mais alors si je prête et qu'il y a un gros risque, bah, je vais prêter plus cher.
Voilà, exactement. Alors il y a en fait le premier risque, c'est que les agences de notation disent, ce pays n'est pas fiable, parce qu'il ne tient pas ses engagements, et là, c'est des espèces de fuites devant la dette, parce que votre dette ne trouve plus preneur. Ça, c'est la catastrophe absolue, parce que tous les pays ont besoin d'emprunter.
Ça voudrait dire, là, pour le coup, qu'on ne pourrait plus emprunter.
Voilà.
On ne va sans doute pas
non,
en être là.
On n'est pas là du tout, puisque la France avait encore, il y a peu de temps, un triple A, c'est-à-dire était considéré.
C'est-à-dire comme le 20 sur 20, quoi.
Le 20 sur 20. Mm. Bon. Elle a perdu un petit cran, donc elle n'est plus 20 sur 20, elle est 17 sur 20, et là, elle risque de passer à 15 sur 20. Mm. Mais 15 sur 20, ça veut dire quand même que les gens se précipitent pour acheter de la dette française, parce que la dette française, c'est un très bon risque. Une fois que vous avez pris de la dette américaine, qui est la meilleure dette, de la dette allemande, qui est juste après, vous prenez quoi ? Vous prenez de la dette française. Et l'expérience montre qu'en fait, chaque fois que la France veut lever 10, en fait, il y a des candidats pour lui en acheter 20 ou 30.
Donc les candidats pour prêter, il y en a.
Oui.
La question, c'est à quel prix ?
Voilà, exactement. Alors, bien entendu, le contexte actuel a un peu varié, parce qu'on est sur une tendance de hausse des taux. On a connu une période pendant 10 ans où les taux n'arrêtaient pas de baisser, où en gros, on pouvait emprunter pour rien du tout. Et puis, depuis quelques mois, à cause de la reprise de l'inflation, de l'instabilité mondiale, les taux se sont remis à monter, et le coût de la dette commence à peser. Et dans les projections qu'on fait sur le coût de la dette à 2027, par exemple pour la France, bien, le poste de coût de la dette deviendra le premier poste budgétaire.
Ça veut dire que ce qui va nous coûter le plus cher, c'est pas de restaurer la santé, c'est pas de monter en puissance sur la question de l'industrie de la défense, par exemple. Ça va être de payer simplement ce qu'on doit
la
déjà
charge de la dette,
à nos créanciers.
La charge de la dette. La charge de la dette, c'est-à-dire ce que nous coûte la dette.
Hein, c'est pas juste rembourser la dette.
C'est pas rembourser, c'est le coût.
C'est la question de l'intérêt, du taux.
Du taux d'intérêt, exactement. Donc en fait, la perspective se dégrade continuellement. Jusqu'à présent, on parlait à peine de la charge de la dette. Mais la charge de la dette, aujourd'hui déjà, c'est l'équivalent du budget de la défense. Et dans 3 ans, ça va atteindre le niveau du budget de l'éducation. Vous imaginez ?
Il n'y a pas de solution ? C'est un cercle vicieux ?
La solution, ce serait bien entendu se désendetter. Mais chaque fois qu'on a tenté d'entrer dans une logique de désendettement, il s'est passé quelque chose qui a fait qu'en fait, on ne s'est pas désendetté.
Après, il y a des parties comme celui de Jean-Claude
Mélenchon. Normalement, on a pris un engagement.
Pouvoir effacer la dette, parfois.
Non, attendez, 2 secondes. Normalement, on a pris un engagement. Normalement, on a pris un engagement qui est, au niveau européen, c'est que notre dette ne doit pas dépasser 60% du PIB. C'est l'engagement qu'on a pris. On est à 110. Donc, c'est vous dire combien on a dépassé les engagements qu'on a pris. Effacer la dette, ça n'existe pas. Il faut que vous soyez le Botswana et vous êtes mis au banc des nations pendant 50 ans.
Ensuite, on vous prête plus.
Voilà, on vous prête plus.
Il a effacé l'argent que je lui avais prêté.
Bah oui, mettez-vous à la place des prêteurs. On vous dit, on vous rembourse pas, vous devenez quelqu'un.
Quelles conséquences ? C'est-à-dire que si effectivement ce coût de la dette augmente, et c'est vraisemblablement ce qui se passera à partir de ce soir, et après l'autre agence de notation Standard & Poor's qui rendra son verdict dans un mois, vraisemblablement ça va nous coûter plus cher. Vous imaginez qu'on puisse se passer d'augmenter les impôts ?
Encore une fois, jusqu'à présent, les décisions qui ont été prises par les agences de notation ont eu un impact très faible, très minime sur la dette française. Comme je vous le disais, la dette française est une dette recherchée. Ceci étant, le gouvernement lui-même s'est engagé à rentrer dans une logique de maîtrise de la dépense et de maîtrise de la dette. Et il l'a annoncé publiquement, normalement, aux commissions européennes, dans le cadre du programme pluriannuel de réduction des déficits et de la dette qu'il a pris. Et donc, à partir de maintenant, on va juger jour après jour, la France a sa capacité à réduire le déficit. Comment vous faites pour réduire le déficit ? Soit vous baissez les dépenses, soit vous augmentez les impôts. Jusqu'à présent, le gouvernement a dit non, on n'augmente pas les impôts. C'est un des éléments majeurs de l'attractivité de la France. C'est un des engagements cardinaux du président de la République. On n'augmentera pas les impôts. Donc, on va plutôt baisser la dépense. Mais quel est le principal poste de dépense ? C'est la protection sociale. Or, les Français sont fondamentalement attachés à la protection sociale.
Et c'est pour ça que le Premier ministre veut ouvrir ces discussions aussi sur la question de la protection sociale, notamment des chômeurs. On en reparlera avec vous, Élie Cohen, et on parlera aussi de la question de la souveraineté industrielle. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, ça s'appelle « Souveraineté industrielle vers un nouveau modèle productif ». C'est aux éditions Odile Jacob, j'en recommande la lecture. Ces questions industrielles et de souveraineté sont aussi essentielles. Merci d'avoir fait le point avec nous ce matin, donc au matin du bulletin de notes de la France. 7h47.
RMC, Apolline Matin.
Et à 7h47, je voudrais que vous puissiez réécouter les mots de Grégoire. Grégoire qui ne s'appelait pas Grégoire au départ, qui a changé son prénom et qui nous a dit pourquoi. Il nous a appelé tout à l'heure au 32-16 à 6h40.
Moi, c'est les livres qui m'ont sauvé. C'est le fait d'avoir un père qui était super intelligent et qui m'a dit « T'arrête pas ça, mon fils. Continue. Et t'inquiète pas, la France, elle est plus grande que ça. La France, c'est pas que ces gens-là. La France, c'est aussi des gens qui diront que t'es français. » Et j'ai continué. Mais je pense à tous ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir mon père, à tous ceux qui n'ont pas eu la chance de lire des livres et qui sont sortis de ces mêmes entretiens avec la haine de ce qu'ils étaient et qui ont rejeté la haine de l'autre du coup. C'est super violent. J'ai 45 ans et quand je repense encore à ces moments-là, c'est encore difficile pour moi.
Les moments auxquels il fait référence, c'est ses entretiens où systématiquement on lui parlait de son prénom, de son nom de famille et de ses origines. Et certains de ces entretiens, il nous l'a raconté vraiment au bord des larmes, se sont terminés alors qu'il était dans ce processus de recrutement parce que précisément, en gros, on comprenait qu'ils ne voulaient pas d'arabes dans leurs entreprises, même si évidemment, pour des questions de forme, ils ne le disaient pas comme ça. Voilà ce à quoi Grégoire a été confronté. Et voilà l'énergie qu'il y a mis et l'énergie qu'il nous a transmise aussi ce matin. Vous êtes nombreux à réagir. Il y a Marie-Laure au 32-16. Bonjour Marie-Laure.
Oui, bonjour.
Bonjour Marie-Laure, vous nous appelez de la Drôme. Vous vouliez réagir au propos de Grégoire?
Oui, bonjour. Oui, donc du coup, comme vous l'avez si bien expliqué, en fait, c'était hyper ému et moi, ça m'a hyper touchée aussi. Après, moi, je suis pas du tout de ces origines-là. Je suis origine italienne. Voilà, mes parents sont venus en France pour pouvoir travailler. Et en effet, comme la dame que vous avez au téléphone tout à l'heure,
Stéphanie qui a aussi réagi tout à l'heure, ouais.
Voilà. En fait, oui, ils nous ont éduqué des valeurs, des éducations, un respect d'autrui, tout ça, une bonne intégration. Pareil, mon père lisait beaucoup, avait une certaine intelligence aussi. Voilà. Et du coup. En effet, c'est très émouvant parce que il faut aller de l'avant, quoi. Ça me donne mal au cœur, voilà. Il faut qu'on avance et puis voilà. Moi qui suis dans l'industrie, pareil, comme il disait, on va où pour le monde du travail, tout disparaît, tout part en déconfiture. C'est bien dommage.
Et en même temps, il était très positif. C'est ça qui est extraordinaire, oui. Grégoire. Il était, quand il dit, moi j'ai eu cette chance-là, mais quand il pense et quand il dit. Et c'est, je trouve, un des moments aussi très bouleversants. Quand il dit, moi, je comprends aussi que ça développe chez certains la haine. C'est-à-dire quand vous avez des entretiens qui systématiquement vous renvoient à vos origines, vous empêchent, vous ferment la porte. Et en même temps, il dit, voilà, moi, mon père, il l'a aimé, comme vous dites exactement, Marie-Laure. Et réussir à faire nation en quelque sorte, Stéphanie qui disait tout à l'heure, c'est peut-être ça aussi l'égalité française, la méritocratie. Merci Marie-Laure, vous aussi d'être passée par le 32-16. On l'ouvre plus encore que d'habitude le 32-16 ce matin parce que vous êtes très très nombreux à nous appeler, à réagir. On vous lira vos témoignages tout à l'heure au 32-16. Il est 7h50 et c'est l'heure de Nicolas Poincaré.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Dans un instant, Nicolas.
Dans un instant, je vous explique pourquoi la condamnation d'Harvey Weinstein aux États-Unis a été annulée. C'est un peu l'affaire MeToo qui est remise en cause.
À tout de suite.
Apolline Matin.
Le bonus RMC.
Le bonus RMC, le bonus de Martin avec le retour d'un jeu vidéo de référence.
Ouais, un jeu vidéo, vous l'entendez, de tennis. Ça s'appelle Top Spin. Top Spin, c'est le tennis que la franchise FIFA est au foot. Donc la sortie aujourd'hui de Top Spin 2K25 est un événement. Ça fait 13 ans que les fans de tennis attendent ça. Le jeu revient donc avec des graphismes ultra réalistes qui vous donneront l'impression d'être littéralement sur les plus grands courts du monde. Roland Garros, Wimbledon évidemment. Vous pourrez jouer avec des légendes du tennis, Roger Federer, Steffi Graf, des joueurs actuels aussi évidemment, Carlos Alcaraz, l'Espagnol notamment. mais pas avec Novak Djokovic, le numéro 1 mondial, qui lui est la tête d'affiche d'un jeu concurrent, c'est ballot. Vous pourrez aussi, et ça c'est rare.
Mais il joue tout seul du coup dans l'autre jeu ou pas?
Alors non, il y a d'autres joueurs, il y a Sinner notamment également qui est dans l'autre jeu et qui n'est pas dans, dans Top Spin. Par contre dans Top Spin, vous pourrez, ça c'est rare, permettre à des joueurs français de gagner des grands chelems. Et oui, Gilles Simon avait salué le retour du jeu en janvier, exactement. Gilles Simon, il attendait le retour du jeu, il disait pas ça parce que je pouvais évacuer ma frustration en collant 3-7 à Rafa Nadal. Plus facile à faire dans le jeu que dans la vraie vie. Tout est possible dans, dans Top Spin. Vous pourrez même perdre avec Benoît Paire, mais peut-être pas en revanche déclencher l'une de ces célèbres colères qui
vous pouvez faire dans votre salon, circuit. Exactement. Devant la télé.
Faites attention à la télé par contre si vous piquez une colère comme Benoît Paire.
RMC, Apolline Matin.
7h54, Nicolas Poincaré.
Expliquez-nous.
Expliquez-nous, Nicolas. C'est une surprise. Un tribunal de New York a annulé la condamnation de Harvey Weinstein. Ça s'est passé hier. Le producteur de cinéma avait été condamné à 23 ans de prison pour viol et il est le symbole de ceux qui ont été dénoncés par le mouvement MeToo.
Oui, Harvey Weinstein, en effet, était le premier emporté par la vague MeToo en octobre 2017. Deux journalistes du New York Times avaient publié une longue enquête pour dénoncer les méthodes de l'homme le plus puissant d'Hollywood, le procureur qui faisait et défaisait les carrières du cinéma américain. L'article décrivait comme un prédateur sexuel, usant de son pouvoir comme de sa force physique pour mettre les actrices dans son lit. Le jour même de la publication de cet article, le 5 octobre 2017, le hashtag MeToo apparaissait sur Twitter, MeToo comme moi aussi, et rapidement des dizaines de femmes ont témoigné.
Harvey Weinstein a été jugé une première fois en 2020 à New York.
Oui, mais pour deux affaires seulement, la plupart des autres ayant été prescrites ou ayant fait l'objet d'un accord. Le producteur a donc été jugé pour une agression sexuelle sur une assistante et pour un viol sur une actrice en 2013. Pour ces deux crimes, il a été condamné à 23 ans de prison, peine qu'il purge depuis 4 ans dans une prison de l'État de New York. Mais c'est donc ce jugement qui a été cassé hier. Harvey Weinstein avait fait appel devant la plus haute cour de New York et cette cour lui a donné raison. 5 juges contre 4 ont estimé qu'il n'avait pas eu le droit à un procès équitable.
Et pourquoi ?
Parce que pendant ce procès, plusieurs victimes ont été appelées à témoigner et le procureur a été interrogé sur d'autres accusations concernant son passé. La cour d'appel a estimé que ce n'était pas juste, que Harvey Weinstein aurait dû être jugé uniquement pour les deux affaires qui étaient retenues, pas pour l'ensemble de son œuvre. La condamnation est donc annulée. Le procureur de New York devra maintenant décider s'il abandonne les poursuites ou s'il organise un nouveau procès. Et en attendant, Harvey Weinstein reste en prison, notamment parce qu'il a été condamné à 16 ans de prison dans un autre procès en Californie, condamné pour un viol.
Cette décision, c'est un choc pour les victimes.
Oui, elle dénonce un jugement profondément injuste et tout à fait démoralisant. C'est un recul pour le mouvement MeToo parce que c'est l'accusé le plus célèbre qui se trouve donc en partie relaxé. Depuis 5 ans et demi, maintenant, le mouvement a fait le tour du monde. Il a touché l'Angleterre, il y a eu d'énormes manifestations en Espagne. En Italie, ça a été particulier parce qu'une des actrices qui avait dénoncé Harvey Weinstein a ensuite elle-même été accusée de harcèlement. Mais c'est sans doute en France que la vague MeToo a été la plus spectaculaire. Elle a emporté des personnalités aussi célèbres que Patrick Poivre d'Arvor ou Nicolas Hulot. La particularité de la France, c'est surtout que MeToo se poursuit. Les réalisateurs de cinéma continuent régulièrement à être dénoncés. Le psychanalyste le plus célèbre de France vient d'être accusé par des dizaines de femmes. Le MeToo de l'hôpital est en train de faire tomber des médecins. Bref, tout est parti d'Hervé Weinstein à Los Angeles, mais rien n'est terminé chez nous.
Merci pour ces explications, Nicolas Poincaré. Il est 7h57, vous êtes bien sûr à RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.